En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le lundi 4 février 2008, Alain Gérard Slama, historien et journaliste, a prononcé une communication intitulée « Littérature et droit devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques ». Retrouvons-le en salle des séances.
Eh bien, Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, je ne saurais aborder cet exposé sans, au préalable, adresser un témoignage sincère de mon admiration à François Théré, qui a pris un risque, déjà celui que je n'envoie pas à mon curriculum vitae, qu'il m'en pardonne, mais je ne pensais pas qu'il l'attendait avec autant d'appétit, et qui a pris un autre risque qui est bien dans son caractère, qui a consisté à éviter à parler des rapports entre littérature et droit, quelqu'un qui éprouve à coup sûr un grand intérêt pour ces deux disciplines, mais qui n'est ni professeur de littérature, ni professeur de droit. L'idée de cette communication, en fait, s'est construite, si je puis avoir un titre à aborder ces questions devant vous, à l'occasion d'un séminaire de Sciences Po, consacré à ce thème avec Marianne Frison-Roche et Bernard Edelman, séminaire dans lequel nous nous efforcions de sortir du cadre des catégories académiques, passez-moi le mot, pour tenter de mener précisément ce que fait actuellement votre académie, c'est-à-dire, notamment dans le cadre de ces conférences, c'est-à-dire croiser les méthodes et les savoirs. Alors je voudrais commencer sur cette question de littérature et droit par faire un petit inventaire, un petit tour du propriétaire, dans la mesure où l'intérêt pour ce champ de réflexion a été en France assez tardif. Jean Carbonnier a été un de ceux qui, dans Flexible Droit, ont fait grand usage de la littérature, alors même qu'il veillait toujours à rappeler l'adage selon lequel le droit ne sonde pas les reins et les cœurs, marquant bien la distance entre la littérature et le droit. Enfin, les reins et les cœurs peuvent parfois éclairer le droit, ou en tout cas les juristes à coup sûr. Et l'étude systématique des rapports entre droit et littérature a commencé seulement à prendre son essor en France, je dirais depuis la publication en France, en 1996, d'un livre de 1986, à l'initiative d'ailleurs de François Théré et de Marianne Frison-Roche, qui dirigeait une collection presse universitaire de France, d'un essai intitulé « Droit et littérature ». Vous verrez d'ailleurs que les titres des livres consacrés à droit et littérature s'appellent « Ou droit ou littérature » ou « Littérature et droit ». J'ai choisi de vous parler de littérature et droit. Je ne sais pas si c'est une trahison du titre qui m'avait été imparti à l'origine, vous me le direz a posteriori. Et ce livre « Droit et littérature » était paru en 1986 aux États-Unis, sous la signature d'un magistrat et professeur à l'Université de Chicago, Richard Posner. Philippe Mallory a donné l'année suivante, en 1997, une anthologie savoureuse intitulée « Droit et littérature dans le temple de la maison Cujas ». Une vague relativement abondante a suivi, marquée par deux ouvrages majeurs de celui que je considère sans doute comme un des meilleurs spécialistes de la question, François Host, « Raconter la loi » en 2004 et « Sade et la loi » en 2005. Et la même année, la revue Droit a publié un article très suggestif, « La fabulation juridique » de maître Bernard Edelman, qui passait de sa spécialité le droit d'auteur, le droit de la littérature, à la réflexion sur la littérature dans le droit. La revue Raison politique, je le signale encore pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, il faut bien que je vous assène, si vous me le permettez, un petit tunnel bibliographique et de méthode. La revue Raison politique a publié récemment sous le titre « La démocratie peut-elle se passer de fiction ?» les actes d'un colloque qui a été réuni à l'école doctorale de Sciences Po par Anne Simonin et Sandra de Fautrier, autour de l'œuvre et en présence de Richard Weisberg, considéré comme le pape de l'école Law and Literature aux États-Unis, où il est professeur à la Cardozo Law School de New York. Enfin, Antoine Garapon et Denis Salas ont organisé l'an dernier un colloque sur le même sujet qui a été publié sous le titre « Droit et littérature » avec la collaboration de Jean-Denis Bredin, à date toute récente, à la fin de l'année dernière. J'ajoute, pour être à peu près complet, que les cercles que je viens de décrire, l'anglo-saxon et le français, se revendiquent chacun de grands ancêtres. En France, dans les années 20, François Génie, qui prit pour objet les formes littéraires et la fiction, sous-jacentes au discours juridique, et plus particulièrement à la rhétorique de l'avocat. Et dans le monde anglo-saxon, les références sont, dans le premier tiers du XXe siècle, John Wigmore, aux États-Unis, l'inventeur de la legal fiction, et Benjamin Nathan Cardozo, juge à la Cour suprême. Wigmore estimait de façon fort raisonnable que tout juriste se doit de lire les grands écrivains pour comprendre la nature humaine, et Cardozo, juge à la Cour suprême, analysait les arrêts judiciaires comme des textes littéraires, comme l'aboutissement pour arriver à une analyse juridique d'une démarche reposant sur la fiction. Les autres grandes références des juristes américains en la matière sont James Boyd White, auteur en 1973 de The Legal Imagination, et bien entendu Richard Weisberg, déjà nommé, avec The Failure of the Word, la défaillance du mot, The Protagonist as Lawyer in Modern Fiction, l'acteur comme législateur dans la fiction moderne, 1984. Alors, évidemment, on est ici sur un terrain un peu insolite, dans la mesure où on ne sait pas très bien où on veut en venir. On ne sait pas très bien ce que signifie finalement la mobilisation de la fiction dans l'élaboration d'une pensée juridique qui, a priori, lui est totalement et par nature totalement étrangère. Je crois que j'essaierai, par petites étapes, d'en exprimer la signification et le contenu. Mais ce rapide inventaire avait pour but, d'abord, de mettre en différence, de mettre en évidence plutôt la différence et même la divergence entre deux types d'approches qui répondent grosso modo à la diversité des deux champs culturels, l'anglo-saxon d'un côté et puis le français de l'autre. Et éclairer ce point, c'est déjà en soi une manière d'aborder notre sujet. La conception anglo-saxonne du droit, qui est essentiellement jurisprudentielle, permet au juge de rechercher dans les jugements antérieurs les précédents nécessaires pour étayer son verdict dans le cas qu'il a à trancher. C'est un travail de mémoire, c'est un travail d'analogie, c'est presque parfois un travail d'imagination. Et cette approche analogique, d'ailleurs, je le fais observer, lit de moins en moins le juge à mesure qu'il est à un niveau élevé de la hiérarchie. La Cour suprême, par exemple, des États-Unis, je crois, ne se sent pas liée par ses propres précédents. Et il semble que cette espèce de promenade de la mémoire à travers la jurisprudence, cette appréciation d'une situation cas par cas, favorise une mise en jeu de l'imaginaire et des analogies comparables à la démarche de, qui peut se comparer à la démarche de l'invention littéraire. Au surplus, le procès américain, qui repose sur la procédure accusatoire, est construit comme un théâtre dont s'empare volontiers la folle du logis. Et c'est ainsi que Posner lui-même définit son travail. Son étude comparative, écrit-il, se propose d'appliquer les méthodes d'analyse juridique aux textes littéraires et réciproquement d'appliquer les méthodes d'analyse littéraire aux textes juridiques. Je répète, appliquer les méthodes d'analyse juridique aux textes littéraires et appliquer les méthodes d'analyse littéraire aux textes juridiques. Et dans cette philosophie, l'un des dangers dont, me semble-t-il, doit se garder le juge, c'est l'excès de fiction. Et tel fut bien, dès le début du XIXe siècle, le sens de la mise en garde adressée aux juristes par Jeremy Bentham, le grand utilitariste anglais, dans sa théorie des fictions, qui date de 1815, qui fut redécouverte seulement au début des années 60. Bentham qualifiait la fiction juridique de mensonge, d'imposture, d'usurpation. Et Posner lui-même a manifesté au premier abord la même méfiance en sous-titrant l'édition américaine de son livre « Droit et littérature ». Il l'a sous-titré « Misunderstood Relation, une relation mal comprise ». La question posée donc par cette école est plutôt « Qu'est-ce que le droit, pris comme point de départ de la réflexion, nous dit de la littérature ?» Autrement dit, est-ce que les grandes formes du droit ne peuvent pas nous éclairer sur les sources de l'invention littéraire ? Et réciproquement, est-ce que les grands mythes littéraires ne peuvent pas nous instruire sur les grandes formes du droit ? Ça aboutit à une démarche qui est une démarche profondément généalogique. époque. Et un de ceux qui, au fond, se rattache à cette école, qui est François Host, qui enseigne à Bruxelles, doit beaucoup à cette approche anglo-saxonne. Il est clair, François Host, dans Raconter la loi, par exemple, je vais prendre quelques exemples là pour cadrer les choses, parce que si on reste dans l'abstraction, nous sommes noyés, enfin je le serai en tout cas pour ce qui me concerne. Il prend l'épisode du mont Sinaï de la Bible et il dit « c'est le moment fondateur de la donation de la loi ». Conçue comme fondatrice, conçue comme libératrice d'un peuple, c'est de là, au fond, que procède l'idée de loi. Et il prend également une autre notion, un autre texte, l'Orestie. Et il nous dit, l'Orestie illustre la transition historique qui a vu naître le tribunal, en partant des Irinies, où la justice est conçue sous la forme de la vengeance, pour arriver aux Euménides, les bienveillantes, où s'impose la justice équitable. Alors, dans ce parcours des grands mythes juridiques qu'il considère comme fondateurs, François Host voit de même dans Robinson Crusoe, qui s'approprie son île, l'acte initial d'affirmation d'un droit personnel, subjectif, qui serait à l'origine, selon lui, non pas du droit, bien entendu, mais de la conscience que chaque individu a des rapports de droit. Et cette analyse, bien entendu, moi, j'ai tendance à y faire immédiatement une objection, dommage qu'il ne soit pas là, laisse en suspens la question de savoir si la conscience du droit comme garant de l'intérêt général peut naître de l'affirmation d'un intérêt subjectif. Et elle touche à une vérité culturelle profonde, dans la mesure où le modèle libéral anglo-saxon, l'individu isolé, est considéré comme égoïste et calculateur, alors que dans le modèle français, l'individu isolé est plutôt considéré, à la suite de Rousseau, comme doué de la capacité de pitié, c'est-à-dire d'une capacité de conscience altruiste et morale. Nous savons bien que le contrat social est né chez Rousseau de la construction d'une fiction. Cette fiction qu'il construit dans les rêveries du promeneur solitaire. Cette fiction qu'il construit dans le cristallisoire de sa propre conscience ou dans l'expérience de son accident quand il est renversé par une voiture et que le peuple est le seul qui s'approche de lui pour s'intéresser à son sort, cependant que les voitures passent et que les grands du monde ignorent totalement son sort. Et il dit il y a une espèce de capacité morale presque instinctive qui se trouve inscrite dans la nature humaine et qui crée donc les conditions de l'altruisme et d'une conscience altruiste. Il y a, au fond, à la clé ensuite du raisonnement de la réciprocité sur lequel Rousseau construit l'idée de son contrat, il y a une histoire. Il y a évidemment un parallèle qu'on peut faire avec tout le déroulement du récit des confessions, même si le récit des confessions se veut d'expérience unique, du récit, d'une expérience authentique, bien entendu, nous sommes dans l'ordre de la fiction. Alors, chaque grand texte considéré, comme je viens de le faire, à la suite de François Host, s'impose ainsi comme l'illustration d'une entité juridique. Alors, prenons encore quelques exemples. Le Marchand de Venise. Le Marchand de Venise illustre l'intangibilité du contrat dans une société où il représente un enjeu de confiance majeur. Ni Shylock, qui exigeait un contrat de prêt, qu'on considérerait aujourd'hui comme léonin, ni Antonio, qui a promis une livre de chair en cas de non-paiement de sa dette, ne peuvent se dédire de l'engagement pris. Ce contrat ne peut être entaché de nullité parce qu'il s'agit d'un billet cambiaire et que porter atteinte à la fiabilité du crédit serait remettre en cause les fondements même de la prospérité de la République de Venise. La solution de ce dilemme juridico-économique qui est trouvé par Porcia, qui déguisait en magistrat, et on le sait, construit la ruse selon laquelle Shylock est sommé de découper la livre de chair qu'il a exigée sans faire couler une goutte de sang. Et cette ruse confond l'usurier en obligeant celui-ci à reconnaître qu'il ne cherche pas la justice, mais qui poursuit en réalité une vengeance, ce qui le met en contradiction avec les termes juridiques stricts et impitoyables dans lesquels il a exigé la réalisation de son contrat. Alors, nous avons là, effectivement, une construction juridique. Pour prendre un autre grand texte, l'Antigone de Sophocle, toujours selon Host, eh bien, l'Antigone de Sophocle illustre à sa source la séparation entre la loi divine et la loi des hommes, ce qui laisse également une question en suspens. La loi de Créon est-elle bien la loi des hommes ? La tragédie ne prend son sens terrible que dans la mesure où la loi des hommes, telle qu'elle est invoquée par Créon, est imprégnée d'une référence au rituel sacrificiel. La condamnation d'Antigone a tout en effet du sacrifice humain. La loi de Créon, présentée comme celle du pouvoir, ne s'est en fait pas encore détachée de la loi divine. Elle en est l'envers. Et c'est le lieu ici de citer Montesquieu, qui se situe à la charnière de la construction de l'idée laïque, dont Machiavel a été le lointain prédécesseur. Je cite Montesquieu parce que ce texte apporte un très bel éclairage, me semble-t-il, au drame d'Antigone. Il faut éviter les lois pénales, on fait de religion. Elles impriment de la crainte, il est vrai. Mais comme la religion a ses lois pénales aussi qui inspirent de la crainte, l'une est effacée par l'autre. Entre ces deux craintes différentes, les âmes, expression magnifique, entre ces deux craintes différentes, les âmes deviennent atroces. N'est-ce pas là une très forte méditation sur la tragédie d'Antigone? Alors la question qu'on se pose à propos de cette approche archéologique est de savoir si les textes nous permettent vraiment d'éclairer une genèse, ou s'ils ne nous fournissent pas plutôt des paradigmes, des différents modèles juridiques. Et là, je voudrais faire une comparaison avec une démarche que j'ai trouvée très forte et très courageuse, qui était celle de Georges Dumézil. Dumézil avait, vous le savez, distingué trois fonctions, les guerriers, les prêtres et les agriculteurs, à l'origine des religions indo-européennes. Et ces trois fonctions, il leur attribuait une fonction archéologique, en quelque sorte, de laquelle l'organisation des sociétés du champ indo-européen découlait. Et il a été amené à considérer que le matériau essentiellement littéraire ou des grands mythes de l'Antiquité sur lequel il s'appuyait, que ce matériau littéraire lui permettait au mieux de découvrir des modes d'action, de mettre en évidence des structures. Et qu'autrement dit, il n'est pas évident qu'une société fonctionne sur le mode de la tripartition fonctionnelle, et moins encore que ces trois fonctions soient hiérarchisées, mais elles peuvent être guerriers, prêtres et agriculteurs, fonctions militaires, fonctions juridiques et sacerdotales, fonctions, disons, on dirait aujourd'hui, de consommation. Ces trois et de production, ces trois fonctions ne sont pas nécessairement hiérarchisées. Et au surplus, elles peuvent être combinées, elles peuvent s'articuler à l'intérieur d'un même processus ou sur la tête d'un même roi. Tarquin, par exemple, entrant à Rome avec des victuailles, c'est à la fois la fonction militaire, c'est la fonction juridique et du pouvoir, et c'est la troisième fonction, c'est-à-dire c'est à la fois Jupiter, Mars et Quirinus, les trois pôles de la réflexion de Dumézil. Et donc, Dumézil est même allé plus loin. Il pensait que ces trois fonctions ne fonctionnaient pas pour le monde grec, et puis il a fini par l'appliquer au monde grec. Donc, François Host a eu, en ce qui le concerne, le mérite de poser d'une certaine façon la même question en reconnaissant que son approche littéraire du droit lui permettait de cerner non pas des fondations, non pas une archéologie, mais bien plutôt des modèles juridiques, des structures qui ont trouvé, selon les champs culturels, des manifestations différentes. Et du coup, ces notions que j'évoquais, la loi chez Moïse, le droit qui repose sur le juge, Shylock, le droit selon Robinson Crusoe, les tribunaux, le passage des Euménides, cela s'incarne en fond dans des champs culturels distincts. Aussi bien, c'est-à-dire le droit qui repose sur le juge, ce sont les pays de common law, l'Angleterre, les États-Unis. Le droit qui repose sur la loi dans l'étape de Moïse, c'est le droit continental européen, dont la France est un des meilleurs représentants. Et le droit selon Robinson Crusoe, le droit qui s'identifie au droit subjectif de l'individu, eh bien c'est le problème que nous pose le droit moderne, dans lequel la loi et le juge sont invités à consacrer parfois, au détriment du lien social, des prérogatives de groupe ou des prérogatives individuelles. Et donc, voyez que comment le travail des textes permet de plaquer ensuite, sur l'observation de la réalité historique, des clés d'analyse ou des clés explicatives qui ont le mérite pour nous, effectivement, d'apparaître comme des structures relativement stables. une typologie relativement stable de la pensée juridique. Mais le risque est évidemment que cette démarche s'enferme dans la généalogie, et le risque est aussi que, au fond, elle est pour principal intérêt de permettre de donner à des concepts juridiques la transcription sensible des images littéraires. Ce qui me paraît toujours un petit peu tentant et dangereux dans les rapports entre littérature et droit, c'est la tentation de faire de la littérature un procédé de colorisation, en quelque sorte, des concepts abstraits, pour leur donner un petit peu plus de chair, un petit peu plus de vie. Et souvent, ma spécialité étant plutôt les rapports entre littérature et histoire, j'ai lieu parfois de regretter que pour les historiens, trop souvent, les références littéraires soient précisément une espèce de luxe qu'on se donne, n'est-ce pas, pour éclairer. Bon, alors, les journées de février 48, ben Flaubert, à nous l'éducation sentimentale, on va citer une belle page, cela va avoir du goût, de la saveur, alors que, en fait, il faut partir du texte littéraire, me semble-t-il, pour en tirer autre chose. Et cette remarque m'amène à aborder l'autre école. J'ai parlé de l'école, si vous voulez, disons en gros, d'imprégnation anglo-américaine. Et si nous parlions maintenant de l'école française, qui n'est d'ailleurs pas toujours représentée seulement par des Français, loin de là. Et le problème qui se pose dans la tradition positiviste française est très différent du problème qui est soulevé par le modèle anglo-saxon. Je vous disais tout à l'heure, au fond, le modèle anglo-saxon, il a intérêt à se méfier de la fiction. C'est pour ça qu'il va débusquer des genèses. Il va rechercher des clés pour essayer, en quelque sorte, d'exorciser son cheminement. En revanche, dans la conception du pouvoir judiciaire, qui était héritée de la théorie de la séparation des pouvoirs selon Montesquieu, et non pas selon Locke, où la justice est une simple autorité, où elle impose au juge d'appliquer la loi, selon un mode de raisonnement déductif, qui est celui du syllogisme, qui qualifie l'objet du litige selon une hiérarchie rigoureuse. Dans cette logique, même l'individualisation de la peine, formulée par Saleh en 1898, je vous dis ça pour vous prouver simplement que j'ai essayé d'apprendre un petit peu quelque chose sur le droit, mais même l'individualisation de la peine, elle inscrit les variantes des cas particuliers dans les textes, en fonction de la personnalité de l'inculpé. Elle limite autant la liberté du juge que celle du justiciable. Et j'en prends à témoin les débats qui entourent en ce moment le projet de loi relatif à la rétention de sûreté pour certains criminels jugés particulièrement dangereux après l'expiration de leur peine. En pareil cas, on est invité, évidemment, dans le jugement qu'on porte sur un point aussi précis prévu par le législateur, que veut prévoir le législateur, on est invité à poser la question de Kant, question abstraite. Demande-toi ce qu'il adviendrait de ton décret s'il était érigé en loi universelle. Mais il faut, pour tirer toutes les conséquences de la question, traquer l'absence de rigueur éventuelle du syllogisme, c'est-à-dire précisément essayer de réfléchir au-delà de la déduction précise au conflit de valeurs, la guerre des dieux weberienne, à savoir les deux valeurs qui s'opposent, la protection de la vie des victimes possibles du sujet dangereux, de l'autre le respect du principe de la dette payée envers la société, et dès lors la capacité d'imaginer, de s'appuyer sur d'autres références pour donner chair et corps au principe universel n'est pas seulement une fiction. Elle peut devenir un recours et nous amener à interroger non plus seulement le droit, mais la conscience, par exemple, du médecin dont la vie déterminerait le sort du sujet dangereux. Donc il ne s'agit pas ici, vous le voyez bien, de dissoudre l'abstraction du droit dans le concret de l'émotion poétique ou romanesque. Ce serait sacrifier le général au particulier. Ce serait foncer tête baissée dans les séductions de l'imagination littéraire. Se laisser convaincre par les œuvres littéraires, souvent très fortes, qui puisent leur inspiration dans les valeurs, par exemple, du genre, du gender, de l'ethnicité, de la religion, qui tendent parfois, grâce notamment aux attraits de l'exotisme, je pense en particulier à la merveilleuse littérature créole, à incliner le lecteur sans nécessairement le rechercher, en faveur du multiculturalisme, de ce que Raymond Boudon appelle le mauvais relativisme, ou de cette forme d'inégalitarisme à rebours qu'on appelle la discrimination positive. Donc, ces œuvres littéraires sont admirées dans leur ordre. Il s'agit au contraire, dans la démarche que je viens de suggérer, de penser l'universel en dialoguant avec la littérature, comme un juge ou un avocat dialogue en silence avec son audience, ou comme les pouvoirs publics dialoguent, au moins en principe, avec la société civile, précisément en sachant que la littérature est intrinsèquement cet interlocuteur qui obéit à un autre système de normes que le droit. Et en sachant aussi que la capacité de distinguer entre les ordres, en particulier entre le politique et le culturel, ou entre le public et le privé, est précisément le début de la sagesse juridique, comme c'est la condition de la sagesse politique. En ce sens, oui, dans notre champ à nous, nous avons plutôt besoin de fiction. Et donc, me voici arrivé à mon dernier point, la littérature comme espace de la liberté. La littérature est par essence l'espace de la liberté, même quand elle s'égare sur les routes de la servitude, comme ce fut le cas innombrable, Aragon, Sartre, que sais-je. Même quand elle peut être soupçonnée de détester le droit, comme le fait, à mon sens, à tort Posner à propos de l'immoraliste de Gide ou de l'étranger de Camus. L'autonomie de la littérature, et pas plus particulièrement du roman, eh bien, par exemple, Kundera nous l'a montré dans son grand livre, son grand essai sur le roman, qui a pour vocation de rappeler cette vérité élémentaire que nous ne nous subsumons pas à des catégories fixées par l'extérieur, que nous ne nous inscrivons pas dans des déterminismes, que le réalisme socialiste ou les régimes fascistes ont essayé par nature de vouloir étouffer le roman précisément parce que le fait littéraire résiste, et plus particulièrement le roman, résiste à toute entreprise totalitaire en raison de son existence même. Alors vous me direz qu'on a vu des grands écrivains comme Bulgakov qui, pour avoir été proche du régime, n'en était pas moins de grands écrivains. Mais bon, l'exception confirme la règle plutôt qu'elle l'infirme. L'écrivain, même quand il s'engage en tant que citoyen, a d'ailleurs ce souci primordial de veiller à cette autonomie. Et je pense toujours, quand je note cette observation, au cri de désespoir de Maurice Barrès, qui, enfermé dans son rôle de romancier national, contre lequel tout son talent protestait, notait en 1909 dans ses carnets, alors qu'il écrivait Colette Baudoche, « Vais-je devoir passer tout mon été avec cette petite bonne ?» Voilà pour la réaction de l'écrivain. Et pour le juriste, la principale leçon que lui administre le commerce des grandes œuvres littéraires est la nécessité de séparer les ordres, de maintenir la règle de la laïcité, par exemple, contre les tentations de la censure induites par la surenchère des demandes sociales, et Dieu sait, si j'ose dire, si elles sont nombreuses aujourd'hui, de s'interdire toutes les formes d'intrusion dans la sphère privée et a fortiori de l'intime, de distinguer entre la sanction qui laisse l'individu assumer la responsabilité de ses choix de conduite et de vie, et la prévention qui ne doit intervenir, disait John Stuart Mill, que lorsque l'usage d'une liberté cause à autrui une nuisance véritable et non un simple déplaisir. Alors on me dira, la littérature ne dit pas tout cela. Si, elle nous parle même au présent. Relisez la Bérénice de Racine pour saisir la difficulté, mais aussi la nécessité de séparer le devoir d'État et les passions privées. Relisez le neveu de Rameau, de Diderot, comme la démonstration joyeuse d'une conception de l'homme qui, depuis la Renaissance, le pense comme pluriel. Relisez aussi ce chef-d'œuvre le neveu de Rameau, comme une mise en garde prophétique contre les procès d'intention, étayés sur le nominalisme et l'amalgame, ces techniques totalitaires qui consistent à vous prendre un mot, au mot, à vous mettre en demeure, si, et à vous considérer comme, si vous n'êtes pas un ami, comme un ennemi. Démarches qui ont été mises en évidence également par un autre romancier, Kundera, dans La plaisanterie, avec une puissance inégalée, et en même temps, le même humour que Diderot et autant de grâce. Relisez Adolphe de Benjamin Constant, à la lumière de sa philosophie de la liberté selon les anciens et les modernes, et vous comprendrez que la jouissance paisible de l'indépendance privée n'est pas paisible, qu'elle doit être une conquête de chaque instant, non seulement contre l'emprise du jugement d'autrui, mais contre l'infantilisme du narcissisme et l'esclavage de l'émotion. Et disant cela, je ne m'éloigne pas de mon sujet, car ce sont autant de choses que doit avoir constamment en tête et dans l'esprit le législateur. Relisez la Chartreuse de Parme de Stendhal, et vous saurez que le moment de bonheur existe seulement pour ceux qui savent le saisir et qui ne l'attendent pas de l'organisation sociale. Et là aussi, peut-être, le législateur a-t-il souvent à se préoccuper de cette question-là. Relisez Les Misérables de Victor Hugo comme un acte d'accusation contre la pénalisation de la société et comme un plaidoyer pour ce principe de confiance aujourd'hui bafoué qui est la prescription. Plus près de nous, relisez les romans de Gide comme une mise en garde contre l'illusion de la justice parfaite et comme le rappel de la frontière qui doit séparer nos engagements politiques de l'économie de nos plaisirs, dans lesquels la société n'a pas à intervenir, serait-ce pour faire droit à un désir de mariage ou d'enfant. Relisez dans Le Procès de Kafka la démonstration par l'absurde que le droit se reproduit sans fin par autopoïèse, enfle et s'autodétruit quand il n'a plus pour se donner un sens d'autre référence que lui-même. Relisez dans L'Homme révolté de Camus les chapitres lumineux où celui-ci renvoie dos à dos le nihilisme juridique de Sade et l'angélisme de Saint-Just. Sade nous dit « Ouvrez les prisons ou alors prouvez votre vertu ». Bien des avocats ont utilisé cet argument, en particulier lors du procès Barbie. Et puis, d'un autre côté, « Prouvez votre vertu, répond Saint-Just, ou entrez dans les prisons ». Dans les deux cas, la confusion de la morale et du droit nie la liberté en inversant la charge de la preuve au détriment de l'individu, contraint à toute réquisition de démontrer son innocence et commué sous le regard de ses semblables en éternel suspect. Relisez dans le Billy Budd de Melville, très souvent cité dans les livres consacrés à droit et littérature. C'est Billy Budd de Melville doit surtout son succès à l'opéra de Benjamin Britten. Et évidemment, c'est l'histoire d'un marin qui est une brute innocente, qui bégaye, et qui ne trouve pas les mots pour s'exprimer, et qui tue sous le coup de l'indignation, faute d'autres modes d'expression, enfin, je m'excuse un peu facile, qui tue son quartier maître. Alors, le sentiment d'injustice malheureuse éprouvé par le commandant du vaisseau, qui est contraint par le droit de la mer de le condamner à être pendu, est un plaidoyer très beau dans le texte de Melville, plus que dans l'opéra de Britten, où la scène est courte, non seulement contre la peine de mort, mais aussi pour l'amnistie. Et relisez enfin dans Courteline ou La Grâce. Relisez enfin, je sais bien que les deux notions sont différentes, mais les deux thèmes se rejoignent dans Billy Budd. Relisez enfin dans Courteline, dans Anouilh, dans Marcel Aimé, que le droit fondamental de la défense est sinon de mentir, en tout cas de ne jamais être contraint de dire la vérité. C'est un des principes fondamentaux de la défense. D'ailleurs, Dieu a bien dit, si je pouvais moi aussi revenir aux tables de la loi, il a dit « tu ne mentiras point », il n'a pas dit « tu diras la vérité ». Alors, je ne prétends certes pas idéaliser les rapports entre littérature et droit. Et peut-être Philippe Mallory n'a-t-il pas tout à fait tort quand il protestait récemment dans une conférence prononcée à Londres qu'il n'a, pour ce qui le concerne, aucune thèse à proposer sur les relations du droit et de la littérature, uniquement le libre plaisir de lire, que je viens de vous cacher, ça j'en suis conscient, un plaisir plein de fantaisie, comme la littérature, et non comme le droit, dit-il, qui n'en a guère de fantaisie, ce qui, je ne suis pas très sûr, pour avoir adoré le traité de jurisprudence administrative qu'on nous donnait à lire jadis quand j'étais jeune étudiant à Sciences Po, et où les arrêts administratifs d'âme de la Murette ou Société des Granites pour Phyroïde des Vosges me paraissaient au contraire débordants de grâce et de poésie. Il va de soi que la littérature convainc autant par la séduction que par les idées. Il va de soi qu'elle peut être à l'occasion mauvaise conseillère, inclinée au scepticisme à l'égard des lois et de la justice, La Fontaine, les animaux malades de la peste, l'huître et les plaideurs. Elle peut inciter au crime, comme le personnage de Lafcadio, embrumé dans son idéologie de l'acte gratuit, décrit par Gide dans les caves du Vatican, lorsqu'il balance par une fenêtre Amédée Florissoire. Ce n'est pas un très bon exemple qu'il faille donner à notre jeunesse. Ou encore, inciter au terrorisme, pour qui a trop lu de près, ou plutôt trop adoré les démons de Dostoïevski. Mais ce sont là les effets pervers d'un bienfait fondamental, qui est la démonstration qu'administre la littérature par son existence même d'un espace extérieur au droit, de normes étrangères au droit. Je ne dirais pas que la littérature soit de façon systématique, et vous voyez qu'on est bien loin là du modèle anglo-saxon. Je ne dirais pas que la littérature soit de façon systématique critique du droit, mais elle lui assigne des limites, elle contient ses abus. Tous les exemples que j'ai donnés montrent qu'elle le retient sur la pente, qu'il incline à vouloir occuper tout l'espace des relations sociales au détriment de la construction d'autres codes, qui sont ceux non seulement du contrat écrit, mais des codes non écrits, de la culture, des associations civiles, des rapports de civilité. Qu'est-ce qu'une société dans laquelle le rapport à l'autre ne se construit pas sur la loi et la règle tacite des rapports de civilité et a besoin, finalement, du papier et de l'encre pour exister. La littérature était insupportable au gidanovisme parce qu'elle est par nature anti-totalitaire. Alors, encore un mot, si vous voulez bien avoir la patience, dans les 2 minutes qui me restent, j'ai l'horloge en face de moi sur laquelle notre président règne avec une autorité sans partage, mais il ne veut pas l'arrêter, je ne peux pas l'y contraindre. Alors, les quelques notions que j'ai abordées ici, présomption d'innocence, prescription, amnistie, charge de la preuve. Avec ces notions juridiques dont la littérature me semble assurer en quelque sorte la garde, ce sont des fondements anthropologiques de nos sociétés qui sont en cause. Et sur tous ces sujets, nous constatons que c'est de plus en plus l'opinion qui tranche. S'agissant de la prescription, par exemple, l'opinion accepte de moins en moins qu'un criminel et même qu'un délinquant puisse échapper à l'action publique au bout de 10 ans s'il s'agit d'un crime, en cas de délit de 3 ans. Comme au temps du marchand de Venise, la justice se voit de plus en plus souvent sollicitée de devenir le bras armé de la vengeance par le truchement des médias, par la pression des associations qui se portent partie civile, alors qu'elles n'ont pas directement subi de dommages. Le droit, en effet, entraîné par sa propre logique, ne sait plus guère contenir la propension des médias et des associations de plaignants à désigner du doigt des boucs émissaires. Enfin, toute organisation humaine a besoin des respirations, de la prescription, de l'amnistie pour que le droit soit supportable. Sur tous ces plans, le droit subit, à mon sens, une assez redoutable régression et croyez-le bien, ce n'est pas un libertaire qui vous parle. Cela dit, la prolifération des règles de droit est de mieux en mieux reconnue, je crois, comme un des cancers qui rongent les sociétés développées. Et je voudrais clore mon propos sur la mise en garde adressée à l'Occident par Solzhenitsyn à Harvard au tout début de son exil américain dans un discours qui était reçu comme une insulte par un public qui a vu de la virulence et de l'ingratitude là où se trouvait d'abord de la hauteur. « Moi qui ai passé toute ma vie sous le communisme, disait Solzhenitsyn, j'affirme qu'une société où il n'existe pas de balance juridique impartiale est une chose horrible. Mais une société qui ne possède en tout et pour tout qu'une balance juridique n'est pas, elle non plus, vraiment digne de l'homme. Le droit est trop froid et trop formel pour exercer sur la société une influence bénéfique. Lorsque toute la vie est pénétrée de rapports de droit, il se crée une atmosphère de médiocrité morale qui asphyxie les meilleurs élans de l'homme. Toute la vie, cher président. » Solzhenitsyn, il est vrai, parlait en croyant. C'était évidemment le point faible de son discours, mais l'écrivain lui touchait à une vérité profonde en faisant observer à quel point la juridicisation des rapports sociaux est stérilisante pour une société, à quel point elle laisse peu de place. Et nous le vérifions pour la littérature. Le temps n'est pas si loin où l'intellectuel était d'abord un écrivain, où on pouvait prendre le pouls d'une époque, de ses idées, de ses passions, de ses mentalités, à travers sa littérature. Je voudrais pouvoir l'espérer, mais je ne suis pas très sûr que ce soit encore possible aujourd'hui. D'un côté, l'État-providence, arrivé à essoufflement à de moins en moins les moyens de prévenir et de couvrir le besoin croissant de sécurité manifesté par des citoyens de plus en plus infantilisés. De l'autre, les citoyens en position de demandeurs ne trouvent plus en eux-mêmes la capacité d'affronter les conflits. L'autolimitation consentie, disait Solzhenitsyn, est une chose qu'on ne voit presque jamais. La liberté s'apprend en effet, elle s'exerce dans le conflit, et plutôt que de porter plainte et d'intenter des procès, je ne connais pas de meilleure pédagogie du conflit que l'empoignade, avec Tacite, Dante, Rabelais ou Shakespeare.
Vous venez d'entendre la communication d'Alain Gérard Slama, intitulée « Littérature et droit », prononcée devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques le 4 février 2008.